Chers frères et sœurs, ce texte que nous avons entendu nous a permis d'apprendre que l'Arche de Dieu, peut-être plus connue sous l'appellation Arche d'Alliance, ce fameux coffre à la recherche duquel Indiana Jones s'en va, qui est aussi le trône de l'Éternel, cette arche a été perdue par Israël. Selon la loi de Murphy, qui stipule que lorsque ça peut empirer, ça empirera, les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Phinéas, ont été tués. Et selon le corollaire de la loi de Murphy, qui dit que quand ça ne peut plus empirer, ça empirera quand même, le prêtre Élie meurt en apprenant cela. Et en vertu du corollaire, de la loi de Murphy, la belle-fille d'Élie passe de vie à trépas. Ce texte biblique ne met pas simplement en scène une hécatombe qui finalement serait une façon de rivaliser avec les actualités auxquelles nous sommes habitués. Ce texte biblique nous dit que les ennuis volent en escalier. Ce texte parle de tous ces moments où les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ce texte biblique parle de tous ces moments où nous apprenons le décès de proches, puis le décès d'autres proches, ou encore de personnes qui sont atteintes d'un cancer. Il parle de tous ces moments où les amis se retrouvent successivement au chômage ou dans un registre plus matériel, quand les appareils ménagers ne fonctionnent plus les uns après les autres. Lorsque l'ordinateur tombe en panne, et comme si cela ne suffisait pas, le téléphone est noyé lui aussi. Ce texte biblique, si nous faisons abstraction du côté guerrier, est d'une actualité saisissante. Il nous parle de la vie non pas comme d'un joli conte de fées, en tout point aimable et agréable. Il ne présente pas l'existence croyante comme le moyen d'échapper à quelque malheur que ce soit, la possibilité d'être épargné. Ce texte nous parle de la vie croyante comme de la possibilité effective d'assister à quelques effondrements. Et ici, il s'agit d'un effondrement d'autant plus significatif que c'est de l'effondrement de la société elle-même dont il s'agit. Songez que l'Arche d'Alliance, si elle est le trône de Dieu, le siège sur lequel, symboliquement, Dieu repose ou devrait reposer dans le temple de Jérusalem, l'Arche d'Alliance est aussi le réceptacle des 10 paroles. Ces deux tables que Moïse avait reçues sur le mont Sinaï, deux tables qui expriment l'espérance de Dieu pour le peuple. Deux tables, 10 paroles, qui structurent le peuple dans sa démarche hors de la maison de servitude en direction de la terre promise où coule le lait et le miel, cette terre où la liberté est enfin possible. Eh bien, ce coffre n'est plus en la possession d'Israël. Les 10 paroles ne seront donc plus symboliquement structurantes. Autrement dit, la société peut craindre de s'effondrer sur elle-même. C'est le fondement du peuple hébreu qui vient de disparaître, et à cela s'ajoute la mort du prêtre Élie. Il n'y a donc plus de régulateur. Nous avons entendu que le prêtre avait été juge pendant 40 ans. Il était aussi bien régulateur de la société que régulateur du sacré en tant que prêtre. Il n'est donc plus de régulation disponible. Le présent est terrassé après que les fondements ont été évacués. Et puis, ses fils, sa belle-fille sont morts également. C'est une manière de dire que l'avenir est lui-même rayé. Ce texte, avec une économie de mots assez saisissante, parle de l'effondrement d'une société, parle de l'effondrement d'une civilisation. C'est peut-être la chute de l'Empire romain que nous pouvons en quelque sorte voir à travers ces quelques mots. C'est peut-être aussi nos sentiments catastrophés devant un temps où nous ne savons plus très bien où nous en sommes. Où nous avons l'impression que les institutions vacillent sur leur fondement, qu'il n'est plus possible de faire confiance à nos responsables et que le moins que l'on puisse dire est que l'avenir est obéré, sérieusement obéré. Cela pour dire que si ce texte raconte l'histoire d'une famille, ce texte parle aussi de l'échelle macroscopique, de l'échelle plus universelle. La société israélite est à ce moment du récit où elle pourrait bien disparaître finalement. Alors dans ces conditions désastreuses, je ne vous parle pas encore d'essayer de trouver une bonne nouvelle, mais dans ces situations désastreuses, quelle pourrait être la réaction croyante? Les hommes et les femmes de foi ont-ils quelque chose à faire? Ont-ils quelque chose à offrir dans ces situations critiques? Et peut-être que la meilleure façon de se poser la question est de se demander si la foi a seulement la moindre pertinence en l'espèce. Les deux chacun, à l'endroit de leur religion, peut-être y en a-t-il quelques-uns parmi nous, diront que la seule réponse religieuse possible est d'offrir un paradis artificiel pour échapper à cette réalité calamiteuse. En passant par le biais du massacre à la tronçonneuse, la célèbre phrase de Karl Marx, ils diront que la religion est l'opium du peuple. Mais, reprise dans son contexte un peu plus large, cette phrase dit bien d'autres choses. Ce qu'écrit Karl Marx est la chose suivante. Il dit « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. » Et Karl Marx ajoute « L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple et l'exigence que formule son bonheur réel. » Le point de vue de Karl Marx est qu'il y a finalement deux religions. Il y a la religion qui effectivement essaie de caresser les gens dans le sens du poil, de leur faire miroiter quelques illusions pour leur offrir un baume et rendre le réel un peu plus supportable. Mais il y a aussi une religion qui se substitue à l'âme du peuple quand cette âme n'existe plus. Une religion qui se substitue à l'esprit du peuple quand l'esprit ne souffle plus. La religion peut être autre chose qu'une machine à produire des faits alternatifs. La religion peut être autre chose qu'une machine à maquiller le réel et à faire prendre des récits pour des lanternes ou à consoler les âmes inquiètes par des propos anesthésiants. La religion peut être autre chose que ces paroles formulées par des sages-femmes qui, grosso modo, disent « tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, au bout du compte, Dieu arrangera les choses ». Mais il n'y a pas à proprement parler de Deus ex machina dans ce texte, ni dans les autres d'ailleurs. On ne peut pas vraiment dire que la religion biblique nous présente Dieu comme intervenant à chaque problème pour supprimer le problème. D'ailleurs, si c'était le cas, il aurait tout intérêt à intervenir un peu avant pour qu'il n'y ait aucun problème. Or, comme je le disais, la foi chrétienne notamment, ne consiste pas à épargner les croyants de toutes les difficultés. Et donc, la religion peut-être autre chose qu'un sous-produit des communicants dont l'objectif n'est jamais de communiquer, mais de rassurer en lissant les aspérités, en lissant les situations et en aidant à faire le dos rond en attendant les jours meilleurs, en attendant que le temps fasse son œuvre, comme si le temps était un personnage qui résolvait les problèmes. Si la religion n'est pas un anesthésiant, elle n'est pas non plus une manière élégante d'inaugurer les chrysanthèmes. La religion peut être autre chose qu'une forme de dignité face à l'adversité, face à ce qui fait mal. Le professeur André Mounel l'avait magnifiquement remarqué en comparant la mort de Socrate à celle de Jésus. Face à cette forme de stoïcisme de Socrate qui boit tranquillement sa ciguë, peut-être même sourit-il, Jésus lui crie sur la croix, considérant que la mort n'est pas quelque chose d'enviable et qu'il n'y a pas lieu d'avoir une dignité en forme de soumission. Certainement, la veuve de Phinéas, qui est sur le point de mourir, pourrait donner en première lecture le sentiment d'une éducation tout en retenue, je dirais une sorte d'éducation bien protestante, où on ne montre pas ses émotions, on ne partage pas ses sentiments, rien ne transpire, rien ne transparaît. Tout s'écroule de façon digne, en restant imperturbable, comme cette personne qui autrefois dans une publicité pouvait manger son morceau de boursin alors que tout l'appartement s'effondrait autour de lui. Ce serait certes une forme de dignité que de rester de marbre, mais une dignité qui subit dans ce cas. Une dignité qui se soumet docilement au cours des événements. Or, il n'est pas question de cela dans l'attitude de la veuve de Phinéas. Elle ne se contente pas de subir passivement ce qui lui arrive. Certes, elle ne porte pas son regard sur l'accouchement, dit le texte. Mais elle réagit. Elle réagit à sa hauteur, elle réagit avec ses moyens, mais c'est une réaction notable et une réaction peut-être même exemplaire. Elle réagit en nommant l'enfant qui vient de naître. Qu'y a-t-il d'exceptionnel, me direz-vous? Nous faisons tous de même avec nos enfants. Il arrive même qu'ensuite, parfois, nous les baptisions pour rappeler le nom que nous leur avons donné. Mais le contraste est saisissant, puisque nous entendons qu'elle ne porte même pas le regard sur l'accouchement et que néanmoins, elle prend le soin de nommer. Elle aurait pu simplement abandonner l'enfant. Elle aurait pu tout simplement quitter la partie, en quelque sorte, et renoncer. La situation de cette femme peut être mise en parallèle avec la situation de Rachel, l'une des femmes de Jacob, qui, elle aussi, meurt en mettant au monde son fils, Benjamin. Et d'ailleurs, les paroles des sages-femmes sont semblables. « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils » est assez proche de « Sois sans crainte, car tu as encore enfanté un fils » dans le livre de la Genèse. La différence tient à la façon de nommer l'enfant. La veuve de Phinéas nomme son fils Ichabod. Rachel nomme son fils Ben-Oni. Ben-Oni, cela signifie « fils de la douleur ». Autrement dit, elle accable son fils de ce qu'elle est en train de vivre. Elle lui impose son état actuel. On pourrait presque dire qu'elle le condamne à vivre à l'infini ce qu'elle est en train de subir. Une sorte de prédestination qui ne fait pas preuve de beaucoup d'ouverture. Ce nom sera changé en Benjamin par le père de l'enfant. La grâce, c'est aussi de pouvoir casser les prédéterminismes. La veuve de Phinéas nomme son fils Ichabod. Ichabod, c'est la gloire. La gloire dont il est question par ailleurs, puisqu'on dit que la gloire est bannie d'Israël. Quant à ce qui précède, et qui dans notre traduction est rendu par un « i », et c'est amusant, parce que la traduction française met « i » très loin « kabod ». On a l'impression que c'est un outil connecté. Avez-vous votre « i » kabod ? Eh bien, le « i » qui précède le « kabod », qui précède la gloire, peut être compris en passant par l'autre occurrence de ce personnage. C'est au chapitre 14 du premier livre de Samuel. On parle à nouveau de ce Ichabod. Et le professeur Philippe de Robert, professeur d'Ancien Testament, constate que la traduction des Septante n'a pas gardé Ichabod, mais Jochabed. Jochabed comme le nom de la mère de Moïse. L'hypothèse est la suivante. La forme primitive est Jochabed. Ce qui, pour le lecteur habitué du texte hébreu, entend « gloire de Dieu ». Le « yod » qui commence le mot est le début du nom propre de Dieu, le fameux tétragramme, quatre lettres, « yod » et « wav » et, qui disent « yavé » ou « yahou » en hébreu. La gloire de Dieu. Mais, pour rendre le nom plus conforme au contexte, une correction de scribe aurait transformé en « i » Kabod, au lieu de Jochabed. Autrement dit, la différence entre la veuve de Phinéas et Rachel, c'est que justement, cette veuve ne désire pas imposer son état à son fils, mais elle lui ouvre un avenir, et ce faisant, elle ouvre au peuple un avenir qu'il ne pouvait même plus soupçonner. Deux fois, elle dit que la gloire est bannie d'Israël. Et là encore, le texte hébreu est intéressant. C'est le verbe gala qui est utilisé. La gloire est en exil. C'est la gola. C'est l'exil de la gloire. Deux fois, elle dit ce constat. Autrement dit, son imaginaire est saturé de ce constat. C'est comme ces gens qui ouvrent les chaînes info et en boucle, les mêmes informations catastrophiques se répètent. Avec une toute petite variante, comme c'est d'ailleurs le cas dans le texte hébreu. Saturation des mauvaises nouvelles. La gloire est bannie d'Israël. Comme s'il n'y avait plus que cela comme horizon. Catastrophe. Constat d'échec. Lamentation sur toutes les bouches. À l'exception de cette femme. Veuve du prêtre Phinéas. Qui rompt avec l'affliction généralisée. Et avec le désespoir général. La bonne nouvelle commence à pointer le bout de son nez. La dignité de cette femme n'est pas d'être indifférente à la situation, ce qui serait inhumain. Sa dignité est de ne pas sombrer avec l'opinion populaire. Jusqu'à sa mort, elle préserve cette lucidité qui me semble être le fruit de sa foi. Cette foi qui correspond à ce que nous avons entendu tout à l'heure de l'Épître aux Hébreux, qui consiste à voir ce qui n'est pas visible. Alors que tout indique qu'on est arrivé au bout de l'histoire, cette femme, au bout de sa propre vie, n'est pas captivée par le malheur. Elle ne regarde pas la détresse de manière obsessionnelle. Elle ne voit pas dans cette naissance une sorte de cadeau empoisonné qui serait imposé au fils. Sa foi l'attire vers ce qui est à venir. Son attitude religieuse est une tension vers ce qui advient, qui n'est point moment qu'un petit bout de vie qui ne passe pas le jour de la corde, mais qui, déjà, incarne l'humanité qui constitue l'horizon souhaitable. Souvenons-nous de ce que signifie le nom propre de Dieu, que notre traduction protestante traduise par l'éternel. Ces quatre lettres, Yod, E, Waf, E, sont construites sur le verbe Aya, qui signifie advenir, conjugué à l'inaccompli, c'est-à-dire au présent ou au futur. La gloire advient. La gloire est en train d'advenir, en dépit des apparences, en dépit des lamentations. L'enfant vient au monde comme un signe de cette gloire, capable de frayer son chemin au milieu de ces broussailles denses du désespoir. En dépit des apparences, en dépit des vents contraires et en dépit de la loi de Murphy et de tous ses corollaires possibles. La dignité de cette femme est de ne pas subir, de ne pas se soumettre à un ordre des choses inhumains. Son action est modeste, mais elle est décisive. Elle consiste à réordonner le monde en nommant et en donnant du sens. Ce qu'elle fait ressemble curieusement à l'action créatrice de Genèse 1, lorsqu'au milieu du tohu-bohu, du chaos, Dieu nomme et donne du sens. Elle rompt avec la menace qui pèse sur le peuple en formulant son espérance. Que la gloire advienne, et la gloire advient. Non pas que Ichabod devint le Messie qui sauva le peuple hébreu à ce moment-là, mais il incarna cet acte de résistance contre cet effondrement global qui put redonner de proche en proche le courage nécessaire, le courage d'être, pour pouvoir rendre responsables celles et ceux qui pouvaient intervenir dans le champ de l'histoire. Cette femme rompt avec la menace qui pèse sur son peuple en formulant son espérance, une espérance qui n'est pas le résultat d'une consommation abusive d'opium. En effet, cet enfant n'est pas une illusion, mais un être tangible, un être capable de certains accomplissements, un être capable d'intervenir dans le cours de l'histoire et, plus encore, un être capable de convertir ses contemporains à une attitude différente, c'est-à-dire leur permettre de prendre conscience qu'un autre ordre du monde est possible. Ce petit bout d'homme, c'est le petit reste dont parleront plus tard les prophètes, qui n'auront de cesse de déclarer qu'il est capable d'incarner à nouveau les promesses divines d'une vie bonne, d'une vie marquée par le bonheur et par la grâce. Bien plus tard, le pasteur Wilfred Monod aura cette formule, un peu trinitaire mais sympathique quand même. Espérez quand même. Croire quand même, aimer quand même. C'est-à-dire qu'on dépit des apparences, justement parce qu'on n'est pas fasciné par le côté morbide de la vie. Parce que notre regard peut être attiré par autre chose que ce qui est proprement immonde dans la vie. La dignité de cette femme est la dignité des croyants, qui ne se laissent pas abuser par les climats d'échec ou de défiance, mais qui au contraire, sont animés de cette foi qui les fait adhérer profondément à toutes les dynamiques qui restaurent l'existence. La dignité de cette femme est de ne pas succomber à la tentation du dénigrement total. La dignité de cette femme est de ne pas se laisser submerger par la morosité ambiante. La dignité de cette femme est d'injecter à nouveau la gloire de Dieu en réinjectant son dynamisme créateur dans l'épuisement des personnes, dans les situations d'échec, dans les statu quo, au cœur de tout ce qui pourrait bien apparaître comme un déterminisme indépassable. La dignité de cette femme se dit finalement assez simplement, c'est d'être profondément libre. Amen.